This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture Prohibée attaque Gérard May. Et oui, comme lors de la précédente saison, nous sommes parmi vous pour une quotidienne de Culture Prohibée. Donc d'habitude, Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité de la culture planète du Ciboulot. Ben là, elle va devenir quotidienne. Le temps de ce festival international du film fantastique de Gérard May, 19e du nom. Et donc à ce sujet d'ailleurs on remercie Public System pour leur accueil et puis nous permettre de travailler au sein de ce festival, et en particulier par exemple pour avoir permis à Culture Prohibée aujourd'hui d'assister à la cérémonie d'ouverture et avoir de pouvoir voir Twixt, le nouveau Coppola, qui est un film fantastique. Alors on va rappeler tout d'abord que Culture Prohibée est animé par les équipes des Films de la Gorgone, donc www.lesfilmsdelagorgone.fr, et que toutes les infos sur l'émission sont disponibles sur notre blog culture-prohibé.blogspot.com. Et je suis accompagné une nouvelle fois cette année de mon contradicteur préféré pour animer cette série d'émissions quotidiennes, à savoir celui que l'on surnomme le Yeti breton de la rédaction, échappé de la rédaction du Courrier Picard, à savoir Pierrick Guenec.
Bonjour.
Hello, Pierrick.
Good evening, everyone. Thank you so much for being with us here in Gérard May for this new festival.
Alors donc aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier, c'est la cérémonie d'ouverture. Grande surprise déjà pour cette cérémonie d'ouverture du 25 janvier, c'est la projection d'un film de Francis Ford Coppola, un film fantastique, parce qu'on rappelle quand même que Francis Ford Coppola n'est pas spécialement un habitué du cinéma fantastique, qu'il a débuté quand même par un film fantastique, un peu d'horreur, à savoir Demencia 13 en 1963, qui était disponible chez Feu, nos amis de Neo Publishing, on le rappelle, pour les cinéphiles un peu fous. Et
puis il a démarré avec Roger Corman aussi.
Eh bien, Demencia 13, c'est produit par Roger Corman, c'est de ça dont je parle, Pierre.
Non, mais avant, il était...
Il a bossé pour Roger Corman. Il a fait, bien sûr, tout son début de carrière chez Roger Corman. Mais je rappelle que Roger Corman n'était pas qu'un spécialiste du fantastique, c'était un spécialiste de la série B avant tout, aussi bien des films, des polars. On se rappelle de lui pour son cycle... l'adaptation d'Edgar Allan Poe. Alors je parle pas d'Edgar Allan Poe par hasard, puisqu'on retrouve un peu Edgar Allan Poe dans Twixt. Et puis en 92, il avait fait aussi Dracula, sa version de Dracula, que moi personnellement j'aime beaucoup. Mais bon, là on va parler donc de Twixt, qui était projeté ce soir, qui est pas vraiment, en tout cas qui est bien supérieur en tout cas au film d'ouverture de l'année dernière, Devil, qui était une purge sans nom, qui nous avait bien fait rire. Alors l'histoire un peu, enfin Twixt un peu, ça part en fait hors de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un souvenir de Francis Ford Coppola, d'une histoire qu'il a écrit il y a quand même quelques années, et dans laquelle un écrivain en fait se rendait dans une ville qui ressemblait à Salem, qui avait été rendu célèbre donc par le procès des sorcières. Et puis il y a aussi autre chose qui a amené Coppola à faire ce film, c'est qu'il était présent à Istanbul, parce qu'il s'est remis à filmer, il s'est arrêté pendant longtemps de faire du cinéma, Coppola, puis il est revenu en 2007 avec L'Homme sans âge et Tétro en 2009. Et donc il était en 2009 à Istanbul, je pense qu'il cherchait des lieux de tournage, et à ce moment-là il a fait un rêve en fait. Alors le rêve, c'est le suivant, il a rêvé qu'il se trouvait à l'entrée d'un hôtel délabré et qu'il rencontrait une adolescente malicieuse avec les dents tordues et couverte de bagues. Donc en plaisantant, elle lui dit qu'elle était un vampire. Lui, Coppola, était légèrement méfiant. Puis ensemble, ils ont pénétré dans la bâtisse où des gens parlaient d'une tombe dans laquelle des enfants avaient été enterrés. Donc après, le rêve continue, on va pas développer ce rêve, parce que dans le dossier de presse, il y a toute une histoire autour du rêve, bon bref. Mais en fin de compte, c'est ce rêve en 2009 qui lui a donné, avec ce souvenir de ce scénario qu'il avait commencé à écrire dans une ville proche de Salem, qui lui a donné l'idée donc de Twixt, de ce film Twixt, donc T-W-I-X-T, donc interprété par Val Kilmer, Bruce Dern et Elle Fanning, qu'on avait vu récemment dans Super 8, et qui raconte donc l'histoire d'un écrivain un peu un loser, un écrivain vraiment sur le déclin, et qui arrive dans une petite ville bon, pour essayer de, enfin pour signer quelques dédicaces de son dernier bouquin qui parle de sorcellerie en fait. Et puis il rencontre le shérif, donc Bruce Dern, hein, donc Val Kilmer c'est l'écrivain, il rencontre le shérif qui l'entraîne en fait dans une étrange histoire de meurtre dont la victime est d'une jeune fille du coin, quoi. Et puis le soir même, la nuit même, en fait, l'écrivain, donc Val Kilmer, il rencontre en rêve en fait le fantôme d'une adolescente, donc qui est interprété par Elle Fanning. Et puis donc il soupçonne en fait un rapport entre ce fantôme et le meurtre commis en ville. Et puis donc du coup il se plonge en fait dans une sorte de travail parce qu'il pense que ce serait matière à lui fournir aussi un bouquin assez extraordinaire. Et donc il se plonge en fait dans une sorte de travail existentiel pour essayer de démêler cette énigme. Pierrick, qu'as-tu pensé toi de ce film de Francis Ford Coppola?
Moi, j'ai trouvé assez moyen, je suis assez partagé. J'ai trouvé qu'il y mettait beaucoup trop de choses. Alors effectivement, donc déjà c'est très décousu, hein. Effectivement, c'est un film qui pourrait être un rêve, comme si un rêve était mis à l'écran. Alors déjà, il faut adhérer ou pas à ce principe-là, sachant que du coup on perd un petit peu quand même le spectateur. Enfin, il y a un rythme assez lent, il y a ce côté où l'histoire un petit peu sans queue ni tête, enfin qui avance tant bien que mal. Un film assez sursignifiant aussi, parce qu'il a voulu quand même mettre beaucoup de choses dedans, Francis Ford Coppola. Donc ça parle beaucoup de création, c'est-à-dire que le type est prisonnier de son image, c'est-à-dire qu'il écrit que des bouquins de sorcières, à un moment il est traité de fucking au rabais, enfin bon, c'est un peu ça, un écrivain de seconde zone. Il veut passer à un autre genre et son éditeur veut pas, enfin il veut qu'il reste sur des choses de sorcières. Donc on imagine évidemment que Francis Ford Coppola a dû être confronté à ça, peut-être avec sa trilogie des parrains. Donc il se demande toujours comme ça, voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte, qu'est-ce qu'il faut, et il cherche quelque chose de nouveau. Donc finalement il réussit à convaincre son éditeur de partir sur cette fameuse histoire de vampire, et il y met vraiment beaucoup de choses de lui en fait, Francis Ford Coppola, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui rappellent ses films précédents. Alors il y a des, le fantôme de Garland Poe par exemple qui apparaît dans le film, qui dans les rêves du personnage, parce que alors, voilà, donc il y a l'histoire réelle et les rêves du personnage en plus. Tout ça étant un rêve de Francis Ford Coppola, donc il y a vraiment une espèce de mise en abîme.
Oui, d'ailleurs Edgar Allan Poe, qui est interprété par Ben Chaplin, il y a aussi une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Une descente dans le Maelstrom, en fait, qui ressemble aussi un petit peu à cette trame qu'on retrouve dans le film. Il y a aussi, je trouve, le film montre aussi l'aspect vraiment labyrinthique de la création, en fait. C'est très compliqué de créer une œuvre, je pense que c'est ce qui explique aussi le film.
Oui, complètement, oui. Et donc il y a beaucoup d'éléments comme ça où Francis Ford Coppola remet même sa propre carrière en perspective. Alors il y a aussi cet usage du noir et blanc avec ses taches de couleur qui rappellent Rusty James. Il y a aussi d'ailleurs un groupe de jeunes qui rappellent également ce film de Rusty James.
Bah, on peut rappeler d'ailleurs dans Rusty James en fait Motorcycle Boy avec donc c'était Matt Dillon et puis Mickey Rourke, je crois, et il y avait effectivement ces scènes magnifiques en noir et blanc avec des poissons rouges qui étaient vraiment rouges en fait. C'est ça en fait la petite touche de couleur qu'il y avait dans le film, et ça avait toute son importance puisque ça participait au Deus Ex Machina du film. Mais j'en dirai pas plus parce qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui ont la chance de ne pas encore avoir vu ce film et qui pourraient donc découvrir Rusty James.
Et on trouve exactement le même procédé, c'est-à-dire un très beau noir et blanc avec effectivement d'ailleurs des taches de rouge pour marquer un rideau, pour marquer le sang. Donc tout ça effectivement interroge beaucoup le procédé de création, l'écrivain qui est en panne sèche à un moment, qui n'arrive pas à démarrer son roman. Enfin, c'est une scène assez drôle d'ailleurs, qui n'arrive pas à démarrer son roman autrement que par et la brume s'abattit sur le lac ou s'échappa du lac. Enfin, il essaye de tourner sa phrase et quoi qu'il arrive, il y a toujours une brume, un lac, et justement son éditeur lui dit non, je veux pas entendre parler de brume et de lac dans ton livre. Donc il y a cette scène assez drôle, bon, où il picole, il est sous cachet, enfin voilà, pour essayer de retrouver ses rêves, de repartir dans des. De retrouver en fait la trame de son prochain livre. Donc on imagine bien effectivement Coppola qui a dû être confronté aussi à cette situation-là, avec cette pression de refaire un énième film, qu'il trouvait pas quelque chose, qu'il essayait d'éviter de retomber dans ses tics, enfin de retrouver une inspiration. Bon, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques parce qu'il y a aussi la mort de son fils. On sait que Francis Ford Coppola a perdu un fils qui était assez jeune dans un accident de bateau. Donc on retrouve exactement la même situation où là l'écrivain est confronté à la mort de sa fille qui est morte dans un accident de bateau. Et à un moment, voilà, il y a une scène où la culpabilité de l'écrivain éclate, où il dit voilà, j'aurais pu éviter le drame, peut-être pas, mais j'aurais pu y être, ou j'aurais dû y être. Enfin voilà, bon, donc on peut vraiment prendre ça comme une confession de Francis Ford Coppola. Mais du coup, il y a vraiment ce côté sursignifiant du film où il met vraiment beaucoup trop de choses, et au risque de perdre un peu le spectateur. Après, ouais,
je trouve ça un peu gênant d'ailleurs, ce côté un peu autobiographique, un peu en fait, parce que c'est une façon pour lui de il explique d'ailleurs dans les propos qu'il a tenus sur ce film, il explique qu'en fait le film lui a surtout permis à lui de comprendre et puis d'accepter la mort de son fils, quoi. Et bon, en fin de compte, est-ce que nous, spectateurs, on est obligés d'accepter de comprendre la mort du fils de Coppola? Je ne sais pas.
Ah, c'est vrai que ça fonctionne pas très bien, quoi. Il exclut le spectateur à la fois par la forme du film, qui est cette forme de rêve un peu décousu, et par des clés que le spectateur n'a pas forcément, d'ailleurs. Et pour le coup, il y a une certaine universalité qui est pas atteinte dans le film, mais qui ceci dit à côté a des réelles qualités. Alors on a discuté avec un spectateur, enfin le film a été assez mal accueilli d'ailleurs, hein. Après, quand on parle un petit peu avec les spectateurs ou qu'on les écoute, en général les avis étaient plutôt négatifs. On a pu discuter avec un spectateur qui est en plus monteur, donc a un regard technique, qui lui a trouvé des erreurs techniques dans le film. Moi personnellement, qui suis un spectateur plutôt crédule, j'ai trouvé le film plutôt beau, avec ses scènes de rêve, avec un très beau noir et blanc. J'ai beaucoup aimé cette idée du fantôme d'Edgar Allan Poe qui accompagne un petit peu le film. Il y a vraiment des belles idées comme ça, où cette fameuse scène où il n'arrive pas à démarrer son roman et il tourne autour de ce lac et de ce brouillard. Il y a vraiment des très belles choses quand même dans ce film. C'est bien réalisé, voilà, il y a une belle image.
Après, esthétiquement, il utilise la nuit américaine pour les scènes de rêve, ce qui est assez surprenant parce que ce procédé de la nuit américaine est quand même largement décrié depuis de nombreuses années maintenant par effectivement tous les réalisateurs. Bon, voilà, quoi. Après, on en pense qu'on en veut, mais c'est vrai que ça, c'est plutôt efficace dans le film. Enfin, on peut quand même, t'en as parlé assez rapidement, mais le film est quand même, c'est vrai que s'il a été mal accueilli, c'est aussi parce qu'il est d'une extrême lenteur, quoi. Malgré sa beauté plastique, malgré une très belle photographie, le film est quand même extrêmement lent. Et je crois qu'il y a que 3 ou 4 plans dans le film où il y a un mouvement de caméra, tout le reste ce sont des plans fixes. C'est vraiment rude à supporter.
C'est lent et déroutant. Après, rude, non. Déjà, le film est pas long, enfin, il dure environ 1h30 déjà, donc ça va, c'est pas non plus interminable. Il y a vraiment des... On capte des choses. C'est un petit peu comme dans un rêve, finalement, effectivement, ce côté fragmentaire. Donc finalement, on picore plus qu'on ne... C'est-à-dire que le tableau, enfin moi en tout cas, le tableau d'ensemble m'a complètement échappé, mais finalement j'ai trouvé mon plaisir en picorant des choses dans ce film, dans l'image et dans la bande-son, qui alors la bande-son est vraiment magnifique. Alors il s'est entouré de... Osvaldo Golijov, j'espère que je le dis bien, et Dan Deacon. Alors c'est assez surprenant parce que pour ceux qui connaissent, Dan Deacon, c'est un musicien complètement fêlé de Baltimore qui fait des choses électro... complètement barré tout seul sur ses programmateurs. Il sample Woody Woodpecker, enfin des choses comme ça. Et là, c'est très sobre dans le film. Et franchement, la bande son, elle est vraiment magnifique, quoi. Et elle est assez originale parce que c'est à dire que bon, il y a quand même beaucoup d'éléments gothiques dans le film. Et il joue avec les clichés du gothique, hein, c'est à dire la pleine lune, l'étoile d'araignée, les croix, Edgar Allan Poe. Il joue avec tous ces clichés là. Et par contre, la musique, elle est vraiment pas du tout dans le cliché qu'on pourrait s'attendre de la musique gothique. Et il y a des scènes, notamment justement une scène où il va sur l'autre côté du lac, où vit une espèce de bande de jeunes gothiques, plus ou moins vampires, enfin bon, c'est des choses qu'on comprend pas très 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 bien. Et avec cette musique un peu électro de Dan Deacon, franchement, c'est une très belle rencontre entre l'enfant fou de l'électro de Baltimore et ce vieux réalisateur qui est Francis Ford Coppola.
Ouais, je trouve que le film, il porte aussi les qualités et les défauts des derniers films de Coppola, c'est-à-dire un esthétisme quand même assez raffiné, mais une réalisation assez statique. Quand je parlais tout à l'heure de réalisation statique, donc un peu rude, on sait très bien d'expérience que le public lambda, les spectateurs, n'aime pas trop être confronté. On l'a vu l'année dernière dans le festival quand on a vu des films que nous on avait beaucoup aimé, comme Ne nous jugez pas, enfin Nous sommes ce que nous sommes, dont on aimerait bien qu'un jour ils finissent par sortir en DVD pour que le reste des spectateurs puissent découvrir ce film, où les gens se sont fait chier, mais alors que le film était vraiment excellent, mais les gens veulent des trucs qui aillent vite, des trucs qui, d'ailleurs les films qui marchaient le mieux à l'applaudimètre étaient les films les plus simplistes, je veux dire, alors que le public de Jérôme est un public très cinéphile, en plus c'est rigolo parce qu'on l'entend régulièrement dans les micro-trottoirs que l'on réalise pour l'émission, mais je pense que c'est le genre de film qui désarçonne parce que quand on vient en festival, on s'attend aussi à voir du film de festival, quoi.
Ouais, enfin, je trouve peut-être un peu dur quand même parce que faut pas oublier qu'un des films qui a été le plus récompensé par le public et aussi d'ailleurs par la critique, donc déjà ce qui montre qu'il n'y a pas forcément un hiatus entre les deux, c'est I Saw the Devil, qui est pas forcément non plus un film très facile.
Non, qui est pas un film facile, mais enfin qui est quand même un film où l'amateur en a pour son argent quand même, on peut dire, pour parler. Mais pour revenir au Coppola, moi je trouve aussi il y a un vrai plaisir dans le film, c'est Val Kilmer qui est pas trop mauvais, et puis c'est de retrouver Bruce Dern
qui a un jeu relativement sobre, enfin qui picole beaucoup, mais Bruce Dern qui a un petit côté de John Carpenter
dans le rôle du shérif, un petit peu Bobby Lagrange, quoi. Retrouver Bruce Dern, c'est super sympa parce que c'est quand même un acteur vraiment culte, qui a joué en particulier dans quelques chefs-d'œuvre comme Chut Chut Chère Charlotte d'Aldrich, ou bien le retour de Al Ashby. Il est joué dans Gatsby le Magnifique, alors On achève bien les chevaux, qui est un peu mal vieilli de Sidney Pollack. Enfin, c'est quand même un acteur culte d'une génération, Bruce Dern. Ça fait bien longtemps qu'on l'avait pas vu dans un aussi bon rôle, quoi.
Ah oui, non, il est excellent. Enfin, tous les acteurs, bon, Val Kilmer, ce que je disais, voilà, qui est relativement sobre. Enfin, il picole beaucoup dans le film, mais qui a un jeu relativement sobre. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les acteurs sont vraiment réduits aussi à des fonctions, quoi. Ils sont, la fille, c'est le fantôme. Lui, c'est l'écrivain de seconde zone qui picole parce qu'il cherche l'inspiration. Enfin, ils prennent pas d'existence par eux-mêmes, mais de toute façon, c'est pas non plus d'ailleurs l'idée du film, quoi, de leur donner un peu d'épaisseur et de.
Moi, je dirais que moi, ce sont des personnages désincarnés pour servir en fait un dessin plastique.
Ils sont réduits à des fonctions. Ils sont réduits à des fonctions.
Un peu comme dans Tétro, je trouve, où il y avait ce côté très plastique. Mais les personnages, certains y ont vu beaucoup de profondeur. Je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que effectivement Coppola il s'exprime sur lui-même, il donne sa vision personnelle de l'humanité, il s'exprime sur son vécu, mais à travers effectivement des choses assez désincarnées, je trouve.
Et alors c'est ce que tu disais, c'est vraiment ça qui peut effectivement rebuter un peu le spectateur, c'est que donc à la lenteur de la réalisation s'ajoute en plus ce scénario un peu lâche, décousu, donc forcément c'est pas évident, quoi, de rentrer dans le film qui par ailleurs, enfin, moi je disais, il y a quand même des jolis moments.
Un film donc mi-figue mi-raisin, on va dire,
pour
un twixt, voilà, c'est complètement nul ce que tu viens de dire, mais bon, ça nous fait rire quand même. Donc en même temps, on n'a pas trop déliré sur le film, parce que c'est vrai que c'est un film qui prête pas franchement à la gaudriole, mais donc voilà, on va écouter tout de suite l'avis quand même d'un spectateur éclairé.
Le monteur dont on parlait tout à l'heure.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce film de Francis Ford Coppola?
Que c'était pas un film de Francis Ford Coppola, que c'était un ratage complet. C'est il accumule un très grand nombre d'erreurs, un trop grand nombre d'erreurs pour être un film de la personne qui a fait quand même Le Parrain et Apocalypse Now, faut pas déconner. C'est vraiment il y a des erreurs de montage, beaucoup d'erreurs d'effets spéciaux.
Pourquoi des erreurs d'effets spéciaux?
Techniquement parlant, le fond vert est visible tout le temps. On voit clairement des faux raccords quand il filme la nuit. Il introduit toujours une scène en montrant vraiment une scène de nuit, et puis ensuite il embraye sur une nuit américaine qui est clairement filmée de jour, et puis qu'on bleuit légèrement pour faire croire que c'est la nuit. Avec trois bouts de criquet, tout ça, ils croient nous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est clairement un ratage. Ça peut pas être signé de Coppola, c'est impossible.
Thank you.
Bon, bien sûr, après ce film d'ouverture qui a été une mise en bouche, demain va débuter la compétition. Hein, donc vous allez pouvoir en apprendre un peu plus chaque jour sur la compétition, puisqu'on chroniquera nous tous les films en compétition, long métrage comme court métrage. Et puis, autre bonne nouvelle, demain on ira dans une conférence de presse à la rencontre de Ron Perlman, donc vous aurez bien très bientôt quelques propos de Hellboy, Mr. Hellboy en personne, et également le chef des Sons of Anarchy, enfin tout du moins jusqu'à la dernière saison, hein, on ne sait pas ce qui va advenir dans les saisons qui se profilent. Mais donc on a cette année, en dehors de cet événement Ron Perlman, une compétition, moi très franchement, sur laquelle j'ai pas spécialement de films que j'ai particulièrement envie de voir. Si ce n'est quand même The Moth's Diaries, le film irlando-canadien réalisé par Marie Harmon, je crois, qui avait fait American Psycho, qui était pas terrible, mais le, comme on dit, le pitch me donne fortement envie de voir ce film, qui est un film qui se passe dans une école de jeunes filles où la situation dégénère. Moi, j'aime bien les films qui se passent dans les écoles de jeunes filles en uniforme par principe. Et puis donc ça a l'air totalement délirant. Mais en même temps, je me méfie beaucoup parce que Marie Aron, c'est une réalisatrice qui jusqu'ici n'a pas beaucoup fait d'étincelles. Mais en même temps, c'est une des réalisatrices les plus chevronnées qu'il va y avoir dans la compétition, parce que la particularité cette année de la compétition, c'est quand même d'avoir une programmation qui est... Alors déjà, bon, c'est un festival, bien sûr, international du film fantastique, donc une programmation, j'en ai entendu beaucoup dire, une programmation internationale, mais bien évidemment, elle est internationale, mais surtout... Quand on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de films qui viennent des États-Unis. Et donc, du coup, c'est un peu une surprise, quoi. Il y a toujours d'habitude un film états-unien qui traîne dans les parages. Et puis, il n'y a pas beaucoup de films coréens, contrairement à l'année dernière. Enfin, il y en a qu'un, là, cette année. Un film sud-coréen qui s'appelle The Cat, qui a l'air d'être un film assez particulier, qui est réalisé par un ex-assistant de Lee Chang-dong, je crois, il me semble que c'est ça. Et donc The Cat, en gros, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui bosse dans une animalerie et qui est contraint de récupérer un chat. Et en fait, ce chat est à l'origine d'apparitions fantomatiques. Voilà. Alors, vu comme ça sur le papier, ce film de Byung Sung-wook, hein, donc qui était assistant de Lee Chang-dong sur Peppermint Candy, qui était quand même un film assez sympa. Je suis moyen emballé, parce que les histoires de fantômes, en même temps, c'est sud-coréen, c'est sélectionné, donc je fais confiance au jury, et j'espère passer un bon moment. Mais bon, il y a après, moi, d'autres films qui s'annoncent intéressants, en particulier des films qui viennent du froid, quand même, hein, puisqu'on a un film norvégien avec l'actrice Noomi Rapace, qui jouait dans Millennium première version, hein, et dans la série télé, qui avait quand même été une vraie révélation, cette actrice. Et donc le film a l'air assez intéressant, ça s'appelle Baby Call, c'est réalisé par Paul Slayton, et donc c'est pareil, lui c'est un réalisateur quand même assez chevronné, hein, dans la sélection, parce qu'il y a beaucoup de premiers films dans cette sélection, ou de réalisateurs qui ont fait, il y a deux premiers films, mais il y a aussi des films de réalisateurs qui ont quasiment rien fait avant, enfin, ou très peu de choses. Donc du coup, c'est une sélection un peu vierge de toute référence, qui n'est pas sans susciter pas mal de curiosité. Alors Baby Call, hein, c'est simple, c'est ce fameux instrument, le baby call, là, qui sert en fait à écouter les bébés quand ils dorment à l'étage, souvent, enfin bon, bref. Sauf que là, la mère, elle entend un meurtre dans le baby call, et donc du coup, c'est assez flippant, quoi. Et puis il y a Beast, moi, que j'ai très très envie de voir, de Christopher Bow, qui est un film sur une histoire d'amour et un type qui se déforme, enfin qui subit des mutations. Enfin bref, ça a l'air assez sympa. La Maison des Ombres, Beast et la Maison des Ombres, de toute façon, on les verra demain. Donc on les chroniquera dans la prochaine émission. Alors la Maison des Ombres, c'est pareil, hein, de Nick Murphy. C'est un film qui raconte l'histoire, ça a l'air assez rigolo, peu de temps donc après la Première Guerre mondiale. On a Florence Cathcart, qui est la meilleure chasseuse de fantômes donc du pays, donc ça se passe en Grande-Bretagne, et elle est envoyée dans un pensionnat pour enquêter sur une mort mystérieuse qui est attribuée à un esprit maléfique. Donc vu comme ça, on peut supposer que ça surfe un peu sur les films soignés à la façon Del Toro, mais qu'en même temps on utilise un peu aussi le dernier James Wan, Insidious, qui a bien cartonné quand même. Donc du coup on plonge là-dedans quoi. Donc on verra bien. Et puis demain il y a Pastorella aussi qui est diffusé, qui est un film mexicain qui a l'air très très particulier, et que c'est marrant parce qu'il a plutôt un postulat de départ qui se rapproche beaucoup des films à la Alex de la Iglesia. Alors c'est en fait le type, enfin c'est deux types en fait qui jouent le diable dans la pièce de fin, enfin qui est joué chaque année à la nativité au Mexique, dans une ville. C'est deux types qui jouent le diable, enfin c'est un type qui joue le diable depuis des années, et cette année il est remplacé par un autre type. Donc il décide en fait de s'exploser la tronche, et visiblement, enfin ça a l'air assez jouissif comme ça, l'histoire a l'air assez jouissive. La bande annonce est un peu flippante, donc j'espère être agréablement surpris par ce film quoi. Donc bon bah c'est petite sélection parce qu'il y a un film de moins que l'année dernière. Alors il y a aussi un film allemand je crois qui s'appelle Hell, et donc qui est un film post-apocalyptique. Donc moi bon, tout de suite des films post-nuke ça me parle énormément. Donc bon c'est l'histoire d'un type qui essaye de survivre dans un monde dévasté. Ben voilà, donc ça c'est très bien. Et puis il y a une coproduction franco-espagnole, mais enfin bon, faut pas se glorifier trop vite, c'est un film espagnol hein, totalement, je veux dire, d'abord il est en espagnol, ce titre est français, enfin les français ont dû mettre un peu de tout, ça s'appelle Eva. Et bon, alors l'histoire, c'est Alex, un ingénieur de renom en 2041, qui est rappelé par la faculté de robotique après 10 ans d'absence pour créer le premier robot libre, un enfant androïde. Le postulat de départ très dickien, on va dire, et particulièrement alléchant, qui avait été traité aussi par, en gros, hein, ça c'est pas pour une enfant, mais bon, de côté enfant AI, hein, intelligence artificielle de Spielberg, donc qui était une adaptation de l'univers de Philip K. Dick, et puis ce thème similaire avait un peu été traité par le très bon Andrew Niccol, enfin le très bon sur son premier film en tout cas, Bienvenue à Gattaca, il avait traité ça dans un film qui s'appelle je crois Simone, si ma mémoire est bonne, que je trouve un tout petit peu surestimé. Ce n'était pas du tout une rime volontaire, veuillez m'excuser. Alors Pierrick, toi, qu'est-ce qui, après cette présentation de la sélection, qu'est-ce qui te fait envie là-dedans?
Bah, contrairement à l'année dernière, j'ai pas trop d'attentes. Alors ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'année dernière, c'est que le festival se ressent beaucoup sur le fantastique. L'année dernière, il y avait des films qui finalement étaient pas du tout fantastiques. Enfin, en plus, les meilleurs films ne l'étaient pas. Ça, c'est clairement, c'était plus des films... on était un peu dans la chronique sanglante, genre Medieval, ou dans le thriller, finalement, hein, genre I Saw the Devil. Les films fantastiques étaient les films les plus faibles de la sélection. Si on pense à Trollhunter, on va même pas parler de Devil, on va tout de suite écarter ça. Donc là, par contre, la sélection se ressent franchement sur le fantastique.
Devil était pas en compète, hein, d'ailleurs. Si, il était en compète. Oh là là, bah c'est la catastrophe. Comment on peut mettre un film pareil en compétition?
Et en ouverture.
Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi que par rapport à la dernière, le festival, ce coup-ci, son appellation de festival du film fantastique est beaucoup moins usurpé que l'année dernière.
Ça se justifie plus. Alors du coup, j'ai peut-être moins d'attente parce que finalement les intrigues des films comme ça, bon, enfin, je sais pas, je suis pas déjà très fan de films de fantômes. Donc moi, j'ai retenu effectivement Elle. Je suis assez curieux de voir ce film allemand post-apocalyptique. Et ben bah, pour le reste, non. Enfin voilà, on verra. C'était aussi bah, comme l'année dernière, quoi, des bonnes surprises.
Bah j'espère qu'on aura de bonnes surprises.
L'esprit ouvert. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a les films sud-coréens. Alors, effectivement, là, pareil, l'intrigue, a priori, c'est pas trop mon trip, mais c'est généralement, c'est toujours
des. On rappelle The Cat, hein, l'histoire du chat et les apparitions fantomatiques.
Voilà, c'est ça, mais après tout, généralement, on est rarement déçu par les films coréens, sud-coréens qu'on peut voir en France. Et encore moins Gérard May. L'année dernière, les deux films sud-coréens de Gérard May étaient quand même très, 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 très bons. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est assez ouvert, en fait, cette année.
Oui, c'est c'est vrai, comme je le soulignais, c'est vrai que du coup le fait d'avoir beaucoup de réalisateurs, soit des réalisateurs chevronnés qui n'ont rien fait depuis un moment, soit des réalisateurs effectivement que l'on va découvrir, du coup c'est vrai que on n'a pas d'attente particulière, il y a pas de grands noms en fait dans la sélection.
Ouais, comme l'année dernière où il y avait le réalisateur Issa The Devil, bon qui commençait déjà à se faire son nom dans les
Kim Ji-woon,
qui avait déjà été récompensé par notre film à Gérard Armé d'ailleurs.
Kim Ji-woon, c'est quelqu'un dont on attendait effectivement. Et d'ailleurs, Be Devil avait été une surprise parce qu'en fin de compte, on n'attendait rien de Be Devil. C'était un film. Il y avait aussi ce film hongkongais qui traînait une réputation de soufre, qui était vraiment excellent. Ce film avec cette fille qui veut acquérir un appartement qui s'appelait Dream Home. Il y avait plein de bonnes surprises, mais c'était très asiatique l'année dernière. Cette année, on est plus dans les films d'Europe, en fait, hein, les films qui viennent, les films européens. Donc, on verra bien. Alors, signaler hors compétition, il y a des films qui ont déjà beaucoup traîné dans divers festivals, donc on l'a déjà vu. Bon, il y a aussi le film de clôture Divide de Xavier Jeans, dont vous avez pu écouter quelques propos lors de nos émissions sur l'étrange festival. Un film post-apocalyptique d'ailleurs également. Il y a beaucoup de post-apocalyptiques cette année. Il y a Beyond the Black Rainbow du fils de George Pancosmatos, réalisateur quand même de Cobra avec Sylvester Stallone dans le rôle de Mario Cobretti avec sa réplique culte. La justice s'arrête ici, c'est moi qui prends le relais. Des grands films. Donc, il a un fils qui aime bien les années 80 et puis qui a fait ce Beyond the Black Rainbow qui a déjà un peu tourné et qui est bon, est très esthétique, mais pas très passionnant. Après, il y a d'autres films, The Color, Chronicle, ou Comforting Skin, c'est pareil, ce sont des films sur lesquels on n'a pas spécialement d'attente parce que c'est des travaux complètement inédits, donc on verra bien. Il y a le fameux documentaire qui a tourné dans tous les festivals, qui a une réputation d'enfer, le documentaire de la charmante Alex Stapleton d'ailleurs, qui s'appelle Corman's World, Exploit of Hollywood Rebel, et il paraît que c'est vraiment excellent. Bon, c'est sur l'ascension de Corman et puis toute son écurie et tout ça, donc forcément, même si c'est hors compète, ça je vais aller le voir. Et puis il y a un film qui nous titille pas mal la curiosité, alors je sais pas si on va réussir à le voir, c'est pas évident de se caler entre les compètes et les films en compète et puis tout ce qui est conférence de presse et tout ça. C'est The Day de Douglas Arniokoski, non pas Douglas Aronofsky hein, mais là Douglas Arniokoski, qui est un film post-apocalyptique, avec des filles en mini-jupe, des types avec des gros flingues, une fille avec une machette, donc
et des bottes,
voilà.
C'est pas parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique pour ne pas se fringuer.
Voilà, exactement. Donc, le postulat, nous, on est très fans. Hein. D'abord, on avait consacré une émission complète au genre post-nuke. Hein. On avait poussé quand même le bouchon jusqu'à illustrer l'émission uniquement par des chansons post-nuke. Donc, je pense que ça va nous plaire. Puis il y a The Divide, donc le film de clôture. Il y a Norwegian Ninja, hein, genre The Divide, qui est aussi donc un film post-apocalyptique. C'est pour ça que je le recitais à nouveau.
Il y a un titre de film avec Bikini. Qui a l'air assez marrant.
Le résumé est assez drôle, on dirait un résumé de vieux porno des années 80. Norwegian Ninja, on en a déjà parlé, hein, c'est pareil, bon, c'est un peu surestimé. Il y a un film qui m'inspire toutes les craintes du monde, c'est Perfect Sense de David Mackenzie, qui est vraiment pas un très bon réalisateur. Bon, il y a la très belle Eva Green et il y a le très bon Ewan McGregor, mais est-ce que ça justifie pour autant de regarder ce film? Je ne sais pas. Franchement, je suis très circonspect. Il y a Le Petit Poussé qu'on avait déjà chroniqué de Marina Devan. Il y a Rabies qu'on avait déjà également chroniqué, le film israélien. À l'époque, il s'appelait Kalivet et là, il s'appelle Rabies. Bon, il a entre deux, il a chopé un titre depuis le festival de Strasbourg. Puis Le Petit Poussé est passé sur les écrans de télévision la semaine dernière de Marina Devan sur Arte. Il y a The Théâtre Bizarre qu'on a déjà chroniqué puisque produit par nos amis de Metaluna Productions, dont vous avez pu écouter les interviews de la quasi-totalité des réalisateurs, puisque c'est un film à sketch, donc très bon, ça être bizarre, on avait beaucoup aimé. Et puis il y a les The Woman qu'on avait beaucoup aimé aussi, de Lucky Maki, qui avait été primé à Strasbourg. Et puis il y a des trucs un peu délirants qui ont l'air très sympas. Il y a un film japonais qui s'appelle Underwater Love, Pink Musical. Je ne résiste pas à l'idée de vous dévoiler le script, hein. Enfin, en tout cas le petit résumé qu'on en a. Azuka travaille dans une usine de poissons au bord d'un lac. Elle est sur le point de se marier avec son patron lorsqu'un jour elle rencontre Kappa, une créature aquatique vivant dans le lac et prétendant être la réincarnation d'Aoki, son premier amour. S'ensuit un spectacle burlesque mêlant amour, musique et sexe. En gros, Voilà, ça a l'air assez sympathique. Et puis il y a la compétition de court-métrage, présidée par Jean-François Roger de la Cinémathèque française, qui lui fait un travail extra depuis qu'il est à la Cinémathèque française, parce qu'il a développé toutes ses séances de cinéma bis et tout, enfin bon, que l'on adore. Et là c'est une, on va pas faire le détail, hein, c'est une sélection, il doit y avoir une coproduction franco-suisse, sinon ce ne sont que des courts-métrages français. Donc il y en a 7. Et on a hâte de voir tout ça, parce que la compétition court-métrage c'est toujours un moment un peu particulier et un moment très agréable. Donc avant que demain Pierrick et moi on aille rencontrer déjà l'ami Ron Perlman, accompagné de notre fidèle technicien flamboyant, on aura aussi demain 3 films à vous chroniquer, hein, parce qu'il y a donc Beast, hein, le film danois, La Maison des Ombres, le film anglais, et Pastorella, le film mexicain. On va pas revenir là-dessus, hein, les 3 films on en a parlé. Et puis on va se retrouver demain pour ces 3 films. Et c'était donc Culture Prohibée attaque Gérard May. C'était donc une émission préparée et animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre blog culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur et présentée par le Yeti Breton, alias Pierrick Guélec, donc votre serviteur. Jérôme Potier dit la Gorgone, and the last but not the least, Léo Manien à la technique. Salut les gens, à demain!